mais va permettre de les faire. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on revienne pour la prolonger ou prolonger, c'est d'ailleurs aussi bien. Est-ce que cette distinction entre nature et culture vous paraît à une soi?
Alors, oui, plutôt en ecclésiaste, parce qu'il faut noter, c'est que la culture hébraïque avait interdiction de représenter des images animales ou humaines. Donc, il ne connaissait pas la seule représentation qu'il en avait, c'est par l'importation grecque. Et disons, ça explique un petit peu qu'ils étaient effectivement dans la crainte et que la seule issue, c'était donc être sous la protection du divin. Enfin, je m'excuse.
Non. Oui, mais je ne suis pas sûr que si. Je pose la question. Parce que l'art, tel que vous concevez de toute manière à cette époque-là, c'était. L'art était. Avec beaucoup de sensibilité. Il n'y avait pas cette idée que l'art pouvait briser un quelconque schéma de répétition. On ne pensait pas l'art comme source d'une créativité, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une spécificité quand même.
Mais il était essentiellement religieux.
Il inquiétait les codes de comportement. Donc ceci a toujours plus ou moins été un peu.
Mais là, je parlais pour l'art. Oui, absolument. Et d'ailleurs, les premiers à avoir fait ça, on les appelait des iconoclastes. Je parle au niveau de l'art, hein, l'histoire de l'art. Oui.
Il était essentiellement religieux.
Religieux.
D'ailleurs, iconoclaste, ça fait une référence à.
Absolument. Je voulais vous dire que lorsque j'avais eu l'occasion de. C'est une anecdote que je voudrais vous raconter, mais ça participe au départ. Il y a 4-5 ans, donc à l'époque j'étais à Toulouse, il y avait un café philo qui se faisait, moi j'avais été voir, moi je ne connaissais pas les gens qui faisaient ce café philo. J'étais pas des enseignants de philosophie qui animaient, mais c'est pas grave, on peut très bien faire un café philo. Et le thème qui avait été mis à ce café philo, c'était la surprise. Alors moi j'avais assisté, et pendant une demi-heure à peu près, toutes les personnes qui intervenaient n'arrêtaient pas de dire « Oui, la vie est pleine de surprises, je me réveille le matin, je suis surpris, je prends mon café, je prends mon bain, je vois mon doigt de pied, je suis surpris, je me bouge. » Au bout d'un moment, ça m'avait pris la tête, excusez-moi l'expression, j'ai dit « Vous ne voyez pas, vous êtes englués dans les préjugés, les calculs, la répétition. » Et j'avais été odieux, et je tiens publiquement à m'excuser.
Mais
moi, j'ai l'impression qu'on a trop souvent tendance à croire que la vie est surprenante. Je parle de la vie quotidienne.
Oui.
Alors qu'il n'y a aucune surprise. Si tu vois quelque chose de surprenant, enfin, c'est pas.
Si. Je suis pas d'accord.
Je vais te donner la parole, mais quand je dis il n'y a pas de surprise, bien sûr, heureusement qu'on est à la capacité de s'émerveiller. Mais lorsqu'on voit le déroulé des existences, alors, peut-être que c'est une déformation personnelle, et c'est pour ça que j'aimerais la confronter à vos analyses, mais il y a quand même un aspect extrêmement grégaire dans la vie sociale. Allez, disons-le, tout le monde à Noël va au ski, l'été, en Espagne, mange de la dinde.
Non, mais il y a des gens qui brisent les tabous aussi, justement,
quand c'est pas qu'il y a. Je fais exprès, hein. Je ne sais pas qu'il y a un aspect moutonnier dans le comportement. À Pâques, je vais en manger des oranges au chocolat. Vous allez me dire, c'est pour faire marcher le commerce.
Moi, je trouve que ça dépend de la personne avec qui on vit.
Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour dire que la vie quotidienne est faite pour ne pas nous réserver de surprises? Je parle dans le déroulé, dans le temps.
Non, mais.
Produit au célèbre, on s'est lavé les dents avant, on prend le café, on met la tartine, on va faire pipi. Il y a toujours ce rendez-vous qui sont des choses qu'on ne voit bien, l'homme de la
journée. Oui.
Et puis bon, vous parlez de la casse humaine, c'est vrai qu'elle a un petit psychiatre, on a dit, c'est une répétition, c'est reproduit ce qu'elle a vécu le parent.
Absolument.
Et le parent, ils sont reproduits ce qu'ils ont vécu les autres.
Bon, absolument. Des schémas de répétition.
Il y a des sources qui s'ajoutent, mais c'est toujours une reproduction. Ce n'est pas ça. Si on regardait bien nos parents, ils sont un peu comme nous. Certaines choses. Ça, le message était vite.
C'est ça. Moi, je trouve ça déchirant. Qu'on soit pris dans les schémas. Moi, je pense à des choses très précises, parfois un peu trop privées pour le dire ici, mais on sait que si on va agir de telle manière, on va avoir telle réaction. Il n'y a personne qui arrive à sortir de ces mécanismes de comportement. Je trouve ça désespérant.
Alors, oui. Vous êtes très pessimiste, parce que ça ne tient qu'à nous aussi, c'est très personnel, c'est vraiment une question de personnel. Ça ne tient qu'à nous que de faire bouger les codes.
Bien sûr.
Moi, les choses qui m'indisposent, moi, par exemple, le repas dimanche en famille, on peut tout bouleverser. C'est une décision propre.
Donc, vous pensez que c'est aussi facile que ça?
Non, moi, je trouve que c'est le poids de l'éducation, quand même, qui entre en ligne de compte. On ne sort pas de l'ornière facilement.
On peut la bousculer, l'éducation.
Moi, mais il y a des codes sociaux. On n'est pas obligé de s'y conformer, certes, mais il y a aussi la législation qui nous conduit au mimétisme, qui nous oblige à nous conduire de telle façon.
Oui, mais vous savez, je pense que même dans une classe, quand vous avez une classe, vous avez peut-être vos moutons, mais vous allez toujours distinguer un ou deux élèves qui vont peut-être sortir de l'ordinaire. Ça, il y en a toujours.
Il y en a toujours.
Oui.
Mais justement, moi je pense que il y en a toujours.
Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur.
Dans ce qu'il dit là, j'ai l'impression qu'on confond les symboles et les traditions, qui sont quelque chose qui ont de la permanence et qui permettent un lien historique, de se repérer dans le temps, d'avoir une existence, avec la vie elle-même, qui est quelque chose de dynamique à l'intérieur de laquelle, qui s'inscrit effectivement dans quelque chose sinon de permanent, mais pas de permanent dans l'histoire, parce que l'histoire que vous nous avez racontée n'a finalement que 25 siècles. Ce qui est très peu.
C'est vrai. Ouais. Bah, par rapport à 17 milliards d'années, oui. Mais là, vous avez prononcé un mot très important. Moi, j'en ai pas parlé. Par manque de temps, en fait, hein. C'est le mot tradition.
Oui.
La fonction de la tradition, c'est justement d'organiser la répétition. La répétition du même. Les traditions, elles sont respectueuses de la répétition, mais dans un cadre très précis. Là, quand on parle en sociologie ou en psychologie des normes comportementales, on parle d'une répétition qui est insu. On ne sait pas qu'on répète les schémas. Alors que la tradition, c'est la répétition qui est maîtrisée, qui est même mise en scène, vous êtes d'accord. Les fêtes religieuses, c'est des répétitions d'événements primordiaux. Alors que dans le cadre des comportements névrotiques, par exemple, on répète parfois des échecs, on parle de névrose et de répétition, sans savoir qu'on répète. Qu'est-ce que c'est qu'une névrose, sinon la souffrance de la répétition?
Mais ça, c'est un reliquat de notre éducation. On nous a appris à réagir à certaines situations d'une certaine manière, et il est extrêmement difficile de remettre cette réaction en cause.
On peut faire sauter les verrous.
De faire sauter les verrous et dire non, c'est pas la bonne manière de faire. Peut-être que si je faisais différemment, ça conduirait à des résultats.
Moi, j'entends. Hein. Mais il me semble que ce n'est pas si facile que ça de faire sauter les verrous, notamment dans des conduites de type névrotique.
À la névrose, ça c'est différent.
Comment ?
C'est ça qui nous permet aussi de ne pas péter les plombs, comme on le dit. Tout ce conduit est là qu'on emploie tous les jours. Pas les voir, moi je ne vois pas de façon négative, mais tout se le savoir.
Oui.
Savoir qu'on le fait. Parce que c'est ça qui permet de ne pas péter les plombs, comme on dit.
Vous voulez dire que la répétition est rassurante.
Si on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, ok, on a tout délibéré, tout est prévu.
C'est rassurant.
Mais il faut les savoir, c'est le savoir par un développement personnel ou par un développement psychique. Mais je ne sais pas.
Oui.
Mais c'est bien de péter les plans, c'est entre guillemets, parfois.
Alors, moi, c'est vrai qu'on peut repartir de cette idée qui me semble aussi importante. Donc là, je ne parle pas du poids de la tradition, qui est encore. C'est cette idée que la répétition, elle nous aide à structurer notre temps, elle nous rassure parce qu'on est en terrain connu. On sait comment on peut réagir, ce qu'on va faire. L'inédit, c'est comme l'étrange, hein, ça perturbe. Parce que là, c'est du nouveau, quoi. Le nouveau perturbe toujours. Mais ce qui est en cause ici, c'est lorsque la répétition finit par nous opprimer.
On s'embue. C'est là que l'on
s'embue.
Mais encore une fois, c'est savoir qu'on répète. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils répètent. Moi, dans le cadre de mon parcours, j'ai discuté avec j'ai même vu des gens qui répétaient les mêmes erreurs, les mêmes échecs affectifs, par exemple.
Oui, c'est ça.
Sans savoir.
Moi, je dis faire le même film à chaque fois.
Ah ben voilà, faire le même film.
Le même film. Quand j'ai des amis, etc., je dis maintenant, tu recommences, tu fais le même film.
tu refais le même film de ta vie et tu veux changer.
Et alors, ce qui est sidérant, c'est que quand on dit ça à ces personnes-là, qu'elles font le même film, elles sont surprises.
Ah oui.
Elles savent pas. Mais il suffit de voir la trame, quoi. Elles n'ont pas ce recul-là.
Exactement.
Et il y a un même film négatif, quoi. Enfin, en tout cas, qui pose problème. Donc, moi, encore une fois, on peut en discuter encore, hein, mais il me semble que sortir des schémas, je parle des schémas de répétition qui nous font souffrir, c'est tout sauf facile. Ça me paraît pas.
Mais parce que bien des personnes difficiles, ce n'est pas faisable.
Absolument.
Il y a des personnes qui se complaisent aussi dans cette idée de rester dans le même schéma, en fait. Ça les sécurise aussi, quelque part.
Vous voulez dire le même schéma névrotique ?
Oui, ben oui. Ça veut dire que sinon, c'est se remettre en question et tout ça. Et c'est difficile aussi pour certaines personnes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Qu'elle retombe dans le même processus, parce que ben, c'est sécurisant aussi.
Vous savez que les psychanalystes, depuis Freud, disent que la névrose est une solution de compromis. Cette expression signifie qu'il y a un bénéfice secondaire à la névrose.
Ça
correspond tout à
fait.
Il y a un bénéfice à être dans une répétition des mêmes échecs, des mêmes souffrances aussi. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que. C'est comme mettre quelqu'un qui était dans l'ombre à la lumière d'un seul coup. En général, on va retourner dans l'ombre. Hein. Enfin,
on ne peut pas.
Oui, c'est un des langages du désir. Oui.
Alors après, voilà, il y a des degrés, il y a des intensités, mais on ne peut pas répondre
et c'est-à-dire qu'on a tous une manière de vivre ses désirs, absolument. Bah, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'inconscient. Si on n'est pas d'inconscient, tout
ça. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que sortir de cette attitude névrotique suppose un séisme ou alors le fait de sortir des habitudes est réservé à des esprits forts par rapport à un esprit faible qui lui va se complaire dans les habitudes, etc. Alors, ça voudrait dire quand même esprit fort, esprit faible. Est-ce que ça veut dire que dans la nature, il y a des gens qui sont capables d'eux et d'autres pas ?
Moi, je peux vous donner les réponses que j'ai en tête, là, qui ont été apportées. Je faisais référence à Nietzsche. Nietzsche est un des philosophes qui est le mieux anticipé la révolution psychanalytique, hein, qui est venue après. Freud refusait de lire des textes de Nietzsche, parce qu'il avait peur de retrouver chez Nietzsche déjà ce qu'il est en train de conceptualiser. Mais il y a cette idée, en tout cas dans la philosophie de Nietzsche, que les âmes les plus fortes, que les tempéraments qui ont le plus de vitalité, sont ceux qui sont capables de briser la répétition elle-même. C'est-à-dire ce qu'il appelle les esprits créateurs. Et pour lui, ce sont ces esprits-là qui ont, voilà, au niveau de l'évolution, sont les plus forts, en fait. Il dit c'est pas ceux qui sont les plus forts avec des muscles qui vont le plus tuer d'autres.
Mais ils sont adaptables à leur chose.
Exactement.
Et dans le travail, il y a des. Bon, moi, je suis à la retraite, mais dans certains domaines, il y a des gens, quand on leur dit il va y avoir ça, sans nouveauté, ils sont complètement bloqués, perdus, parce que cette nouveauté leur fait peur.
La plupart.
Et moi, alors qu'en fait, tout le monde s'habitue à tout, mais. Ce laps de temps est très dur à vivre pour eux. Le temps qui soit passé à une nouveauté.
Alors, puisque vous nous avez déjà parlé, je vais instiller. Merci d'avoir parlé de ça, parce que bon, là vous avez vu, je fais référence à un philosophe qui s'appelle Frédéric Nietzsche, un philosophe très important en philosophie. Nietzsche a, dans son œuvre, forgé un concept. Alors, en allemand, c'est Übermensch, qu'on traduit par surhomme. C'est le concept qui a donné le plus de mauvaises interprétations. Puisque on sait en particulier. Alors, Mussolini avait dit qu'il n'avait lu qu'un seul livre dans sa vie, c'était Nietzsche. Il n'avait rien compris. Il avait interprété le surhomme dans un sens qui sera aussi l'interprétation hitlérienne, hein, c'est-à-dire l'homme supérieur à rien. Le surhomme chez Nietzsche, c'est pour ça d'ailleurs en philosophie maintenant, il court. Je me souviens, à la Sorbonne, on traduit plus l'expression Übermensch par surhomme. On le traduit par l'homme en excès. Alors, ça peut paraître étonnant comme traduction, mais en fait, c'est pour éviter cette pollution interprétative. Le surhomme chez Nietzsche, c'est l'homme qui est capable de se transformer, de se réformer en permanence. Et Nietzsche va même jusqu'à dire, c'est l'homme qui est capable de transvaluer toutes les valeurs, c'est-à-dire c'est l'homme qui est capable de créer sa vie, d'être totalement libéré de la répétition. Alors évidemment, c'est un fantasme, c'est un idéal, parce que nous avons tous une insertion sociale. Et le surhomme, c'est l'homme créateur. Et chez Nietzsche, l'homme créateur trouve son expression la plus forte chez l'artiste. Il y a une déification de l'art chez Nietzsche. Comment ? Ah ben voilà, par exemple. Ah oui, tout à fait. Oui.
Tu sais qu'on peut aussi peut-être parler de conscience aussi, parce que ce qui nourrit la répétition, c'est la confrontation, le sentiment de précarité, donc finalement peut-être à la mort, que ça répond à ça. Et que du coup, l'incertitude et la créativité, c'est sortir c'est avoir confiance en la vie pour oser quelque chose.
Vous voulez dire qu'un frein à la créativité, ce serait la peur de la mort ?
Non, je dis que la répétition, que ce qui nourrit la répétition, c'est la crainte de la précarité. C'est le sentiment qu'on parle de précarité. Et que c'est en osant sortir de la précarité que l'on va trouver autre chose et créer en permanence. Je crois que l'homme, parce qu'il a sa propre conscience de celle de la mort, est toujours en tension entre ces deux mondes.
Mais je vois.
C'est la facilité aussi. La facilité,
c'est
l'habitude. Quand on a ces habitudes,
l'habitude répond à un sentiment de précarité.
Alors moi, ça me fait penser à une thèse hegelienne dans la dialectique du maître et de l'esclave. Le philosophe allemand Hegel décrit l'idée selon laquelle vous avez des hommes qui sont tellement soumis à cette conscience de la précarité, à la peur de la mort, qu'ils en deviennent des esclaves. Ils sont complètement soumis à la répétition. Celui qui n'a pas peur de la mort, en fait, et c'est celui qui sort de la relation d'esclave. Alors je ne sais pas si ça pourrait correspondre ou pas, mais moi ça me fait penser à cette idée-là. Hein. Cette idée que finalement, pour être créatif, il faut un peu lâcher les prises, hein. Il faut lâcher de l'angoisse aussi. Sinon, on est dans la répétition. La répétition, l'habitude, c'est vrai qu'elle sécurise. Mais en même temps, elle sclérose et fige.
Il faut un grain de folie aussi.
C'est ça.
Il y a une perte d'identité.
Alors, oui, pardon.
Il y a une perte d'identité qui est renversante. Quand on lâche ses habitudes.
Oui, une perte d'identité parce qu'on est. Puisqu'on n'est plus dans la répétition, qui forgeait justement une certaine image mentale de soi. Voilà. Donc moi, vous voyez, je vous ai donné le discours des sciences humaines en citant Michel Foucault, vous vous rappelez. Foucault, on lui a beaucoup reproché dans Les mots et les choses, donc ce livre qui date de 1970, d'avoir dit à la fin de ce livre que l'homme n'était pas libre, que la liberté du jeu, J.E., était une foutaise. Ouais. On lui a reproché de concevoir un homme complètement soumis à ce que Lacan appelait la domination des signifiants. En tout cas, à l'homme pas libre. Hein. Il se trouve que dans les derniers livres de Michel Foucault a voulu sortir de cette image qu'il avait d'être un philosophe anti-humaniste. Anti-humaniste, ça veut dire ici contre l'idée d'un homme capable de se réformer. C'est ça que ça voulait dire. Un des derniers ouvrages de Foucault portait sur le souci de soi. Il y a eu toute une réorientation dans laquelle Michel Foucault a voulu réintroduire une part de créativité, tout un virage nietzschéen chez Foucault, montrer que l'homme était pas simplement le pantin des signifiants inconscients qui nous habitent et qui modèlent la répétition de nos actions. En fait, hein. Je pense qu'on retrouve ça chez beaucoup de philosophes. Être conscient que nous sommes prisonniers de plein de choses qui font qu'on répète. Et pas simplement les normes sociales, mais d'abord des signifiants inconscients. Mais il y a aussi cette capacité chez l'homme à briser ses limites, à briser ses chaînes. Donc il y a cette tension, hein, chez beaucoup de philosophes. Oui.
Est-ce qu'on peut situer Camus dans la même ligne quand il parle de l'absurde? Du mythe de Sisyphe, Ah, oui. Et qui après, grand changement, dit mais finalement, c'est la reconnaissance de l'art, la marque que laisse l'homme dans le futur, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans le. Qui sont célèbres, qui sont connus, qu'on citait des auteurs, maintenant on consacre ceux que la Pléiade publie. Quand ils rentrent dans la période, on dit bon, c'est comme si on rentrait dans l'Académie française, pour exagérer un peu. Mais voilà, moi, cette idée de l'absurde chez Camus, et dans l'absurde, je crois qu'il vise la mort.
La mort et la vanité aussi.
Et la vanité.
Au sens. Puisque Sisyphe, enfin, je ne sais pas comment vous interprétez le mythe de Sisyphe, mais c'est quand même l'effort inutile. Hein.
C'est ça, c'est juste
bon. Voilà, exactement. C'est une très belle image de la vanité au sens de ce qui est vain. Et effectivement, hein, il y a chez Camus cette idée aussi que l'art nous fait échapper à ce processus finalement. Et moi, ce qui me frappe, là vous citez Camus, mais ce qui me frappe, c'est la cohérence d'idées entre des auteurs d'horizons différents. Pour dire que, en fait, point de salut sans l'art. Finalement, c'est pas la science, c'est plutôt l'art qui peut nous sauver de la répétition. Parce que parfois, la science a été suspectée, là je parle des sciences dures, hein, de légitimer la répétition. Et rien n'a plus été horrifiant pour beaucoup de philosophes que les thèses de gens comme, pourtant éminents, hein, comme Jean-Pierre Changeux dans L'homme neuronal. Nous sommes un ensemble de neurones avec des mécanismes. L'homme neuronal, ça représentait un progrès au niveau des sciences du cerveau, mais il y a un célèbre texte qui est un dialogue entre Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur. C'est un texte magnifique, c'est la force de la règle. Donc Changeux essaie de faire comprendre, non, Ricoeur essaie de faire comprendre à Changeux que bon, sa vision de l'homme, elle est quand même très mécaniste. Quoi. Et Changeux, je trouve avec un petit peu de mauvaise foi, qui est outré. Mais comment on me reprochait d'avoir montré que l'homme c'est un paquet de neurones, en fait, hein, lié à un mécanisme matériel, en fait. Hein. Je ne comprends pas qu'en disant que. Enfin, la vision qui nous amène de l'homme, c'est une vision qui nie complètement toute possibilité de liberté. Parce que sinon, on n'est que des conjonctions de neurones et de synapses. Hein, ça veut dire que nous sommes des machines. Ça, il n'arrive pas à comprendre ça, lui. Ça que je sais. Enfin, bon, on est dans le problème, en fait, hein, mais sous un aspect un peu particulier. Et par conséquent, voilà. Point de salut sans l'art. Au point que les artistes qui ont compris ça, ils sont allés très loin dans l'originalité. Mais au point, parfois, me semble-t-il, hein, de confondre originalité et excentricité. Ce que vous en pensez. C'est-à-dire que même chez les surréalistes, il n'y a pas longtemps j'ai revu un des films des surréalistes. Alors c'est pas un chien de l'ami de Buñuel, c'est un autre. Là, ça m'échappe. La première scène, on voit une vache qui rentre dans une pièce avec une femme qui était allongée sur un lit. Des scènes, je comprends que ça avait beaucoup choqué, les gens ne comprenaient rien déjà. Et puis on disait que c'était des surréalistes, ils avaient des passe-temps de petits bourgeois, ils avaient le temps de faire des gags en fait. Mais toute la dimension subversive, on ne l'a pas comprise. Moi, je me souviens, en 1975, Salvador Dali. Juste avant, il avait fait une célèbre publicité pour du chocolat. Pour rappeler, je suis fou du chocolat à l'envers. Et c'est moustache. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Est-ce que c'est un grand artiste, ça? Et juste après, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait organisé ses funérailles de son vivant. Vous ne rappelez pas de ça? Il était enterré. Donc il y avait des pleureuses, hein, qui l'avaient loué. Elle pleurait, elle était là, elle pleurait. Et il voulait savoir, et pour lui c'était un acte poétique. Qu'est-ce que ça faisait d'être enterré de son vivant? Je crois qu'elle est dingue. Elle est dingue, ils vont pas comprendre.
Mais c'est excentricité et provocation pour justement sortir de.
Mais est-ce que c'est pas ça?
Ah, mais je suis d'accord, c'est
ça. Est-ce que c'est pas ça, sortir de la répétition? Mais... Vous connaissez beaucoup de gens
qui sont. Et nous, on le perçoit pas.
Quelle différence y a-t-il entre l'art et la distraction dont vous parliez?
Ah, c'est. Autrement dit, qu'est-ce qui différencie un acte qui a un sens, en fait, un sens créatif véritable, vis-à-vis d'une simple distraction? La distraction au sens le plus élémentaire, c'est ce qui doit occuper l'esprit. On peut regarder les anges de la télé-réalité, ça distrait, mais je ne pense pas qu'on pense, ça fasse beaucoup penser. Quoi.
Non. Mais est-ce que là, on pourrait considérer.
Je
ne
peux pas regarder d'autres choses.
Non, mais la distraction dont vous parliez au début.
Ah, le divertissement.
Le divertissement, pardon.
Ah, parce que le divertissement au sens pascalien, c'est très particulier. C'est empêcher de se voir dans une case. Ce que dit en gros Pascal, l'homme est incapable de se voir tel qu'il est, c'est-à-dire un être faible, mortel. En fait, c'est ne pas vouloir voir son visage dans une case. Et s'oublier, voilà, c'est ça le divertissement. S'oublier dans la frivolité, pense à toutes les distractions, voilà, c'est pas au sens large, hein, qui font que l'homme oublie d'être capable, dit-il à un moment donné, de se retrouver dans une pièce, dans le silence, et de se retourner vers soi. D'être face à soi-même, c'est ça le divertissement. Donc c'est pas la distraction hein, au sens de l'entertainment, quoi. C'est un sens beaucoup plus profond et très intéressant.
Est-ce que l'art, ça n'est pas ça?
Alors voilà, ça c'est la grande question.
Ça
veut
plomber l'ambiance?
Non, mais on peut poser la question, parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'art, enfin les excentricités de l'art, elles n'ont pour but que de choquer.
Déranger, choquer, c'est ça.
Voilà. Sans qu'il y ait une profondeur derrière. À l'époque des surréalistes, il n'y avait pas que des provocations. Il y avait aussi un manifeste. Les surréalistes avaient rattaché leur propre production à une théorie, en particulier la théorie de l'inconscient. Vous savez qu'un des espoirs des surréalistes était de retrouver, en tout cas au niveau de la peinture, hein, l'étrangeté des images des rêves. Donc là, il y avait un programme. Je ne suis pas sûr que beaucoup de productions artistiques plus récentes, qui ont beaucoup fait parler, quelle est celle qui a le plus choqué ces derniers temps, vous savez? Ça a tellement choqué que les Parisiens ont demandé à ce que ce soit enlevé. Je ne peux même pas en parler des élèves, mais c'est choquant, vous vous rendez compte quoi. Enfin, c'est choquant. C'est le,
ah, c'est pas le,
c'est le plus galant.
Le château de Versailles.
Le château de Versailles.
Le quoi le,
un plug anal.
Ah voilà.
C'est-à-dire un instrument, je ne peux pas trop détailler là. Mais.
c'est
un plug anal géant, hein, je précise, qui a été ensuite enlevé parce que les gens s'en sont plaints. Il y a eu des choses. Il y a eu une exposition il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans de ça. C'est un artiste italien qui avait exposé des fœtus morts. Il y a eu une telle plainte que ça a été. Est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'art? Enfin, je sais pas. Hein. Ah oui. Belle, Benjamin Vautier, il y a quelques années. Benjamin Vautier, c'est un artiste contemporain. Il avait dit: moi, je suis plus fort que Duchamp. Marcel Duchamp, 1917, vous savez, avait exposé un bidet à l'urinoir. Lui, il a dit: moi, je vais exposer mes flacons d'urine. Pas l'urinoir, moi, j'expose l'urine. Alors, on peut dire: quelle audace! Ou alors, on peut dire rien. Alors, qu'est-ce qui permet de distinguer un acte créateur, véritablement réformateur, d'une pure bêtise, d'une pure provocation? Moi, je vous dis les réponses que je lis le plus souvent de la part des philosophes contemporains. Un acte créateur authentique, il donne à penser. Il y a une œuvre de Magritte, René Magritte. L'art est, et E-T, et puis entre parenthèses, E-S-T. L'art et la pensée. Voilà, il a tout dit. L'art et la pensée. Quand il n'y a pas cette conjonction, on est dans la pure provocation. Enfin, moi, ça ne me donne pas à penser d'aller voir les flacons d'urine de Ben, hein, je suis désolé.
Les compressions César, par exemple.
Ah, ça donne à penser. Ça, c'est vrai. Après, bon, il y a. César, en plus, c'est incohérent dans son œuvre. Ça donne. Enfin, il y a une réflexion derrière, là. Alors que vous avez des. Enfin, il me semble hein, que parfois, vous avez des œuvres qui sont de pure provocation. Il y a un Italien, là, un photographe cette fois, qui avait fait des publicités pour Luciano Benetton. C'est des magnifiques photos, mais elles interrogeaient. Il y a une photo célèbre qui a fait scandale en Italie. On voyait un prêtre et une bonne sœur qui s'embrassaient. Moi, je trouve que là, ça donnait à penser. Et il y avait d'autres photos aussi. Hein. Il y en avait une terrible, hein, où on voyait un homme qui tenait un fémur humain, un vrai fémur. dans une zone de guerre, je sais plus. Enfin, je sais que chaque photographie, elle pouvait donner lieu à une réflexion, quoi. C'est-à-dire que c'était pas fait seulement pour choquer. C'était d'abord fait pour bousculer les normes. Bon, voilà. Mais cette capacité réformatrice, j'ai essayé de le dire à la fin. Moi, il me semble qu'elle est au cœur des grandes religions. Ça peut vous paraître étonnant, mais les grandes religions, elles se sont imposées et elles se sont toujours présentées comme réformatrices. Le judaïsme est réformateur par rapport au polythéisme ambiant, vous êtes d'accord ? Par rapport au polythéisme ambiant, il est réformateur, il n'y a qu'un seul Dieu, on ne doit pas prononcer son nom, on ne doit pas le représenter. Il n'y a pas plus pire réforme, ou plus grande réforme que ça. Le christianisme, c'est la réforme avec un R majuscule. Un homme nouveau, qui est peut-être pas un homme à qui on dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est plein d'autres choses aussi. Hein.
Gandhi, qui a le christianisme, c'est de la dynamite.
Qui a dit ça?
Gandhi.
Gandhi a dit ça. Il y a quelque chose d'absolument subversif dans le message évangélique. Et il me semble que c'est pour ça que les grands fondateurs de religion, là je rejoins une analyste philosophe français, Henri Bergson. Bergson a écrit un texte magnifique, si vous avez l'occasion de le lire, pas difficile à lire, magnifique, qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion ».« Les deux sources de la morale et de la religion ». Un livre qui date des années 1910. Bergson montre qu'il y a deux sources de la morale et de la religion. Dans le domaine religieux, vous avez des gens qui sont là pour perpétuer les traditions. Cette source, elle est institutionnelle. C'est par exemple l'Église catholique avec toute sa hiérarchie. Enfin, ce sont toutes les institutions, en fait. Hein. Cette source-là, elle est institutionnelle. Son but, c'est de dupliquer, de faire que les choses se répètent et qu'on ne change pas un iota au texte sacré. Vous savez qu'à l'extrême, ça donne l'intégrisme. L'intégrisme, au sens premier, c'est le fait de vouloir préserver l'intégrité du texte. L'intégrité. Donc ça, c'est une source. Et l'autre source, c'est une source révolutionnaire. C'est l'apparition d'un réformateur, de quelqu'un qui dit « Avec moi, les choses ne seront plus jamais comme avant. » Les choses ne seront plus jamais comme avant, et donc on va entrer dans une nouvelle ère. C'est exactement ce qui s'est passé avec le christianisme. On a parlé après de l'ère chrétienne.
C'est pour ça qu'il ne faut pas amalgamer christianisme et catholicisme.
Absolument. Et religion et intégrisme.
Voilà.
Absolument.
C'est ce qu'avait dénoncé cette religion.
En particulier.
La source révolutionnaire, la première, et la source institutionnelle, et secondaire, elle enquiste finalement.
Voilà. Oui, absolument. Elle enquiste, elle fige, ouais. Et elle enlève, dirait Bergson, la force de l'esprit. Puisqu'elle l'enquête, comme vous le dites, c'est exactement ça. Donc ce texte, je vous le conseille, hein, les deux sources de la morale et de la religion de Bergson, il ne dit pas que ça, mais il est magistral, puis c'est très bien écrit en plus, hein, qui montre que la phrase « rien de nouveau sous le soleil », elle ne vaut pas pour ces créateurs, ces fondateurs de religion, qui essaient en tout cas d'imposer un nouveau rapport de l'homme au monde et à lui-même, hein, et aux autres. Et ça, on le trouve. Le bouddhisme, c'est pareil. Il y a une rupture. C'est pour ça que les religions, elles sont radicales sans être intégristes, justement. L'intégrisme, ça vient lorsque on enquiste. Et puis après, le dernier stade, c'est le fanatisme, hein, qui conduit là au terrorisme. Oui.
C'est tellement fait sur cette rupture entre l'avant et après Jésus-Christ que en histoire, quand on veut définir le temps, on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ.
Absolument, absolument. Et en islam, il y a une autre, hein, on compte à partir de l'Égypte. Voilà, donc dans le judaïsme, pareil, on compte à partir, alors c'est 5700. Enfin, ça sert à poser la chronologie, en fait, le calendrier. Pour dire à quel point la rupture est profonde. Hein. Alors, ce qu'il y a de paradoxal, en tout cas de symptomatique, c'est que même à l'intérieur d'une religion donnée, le christianisme, enfin en tout cas, vous avez des ruptures à l'intérieur, vous savez, entre orthodoxes et catholiques, la rupture de la réforme, entre catholiques et protestants. Voilà, donc, et cette rupture-là qui prétend retrouver le sens originel de la reformation de l'homme, justement. Alors, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a d'autres points sur le volet de la science? Ça vous a paru intéressant et puis surtout compréhensible, ce que je vous ai raconté. Cette idée que finalement, pour la science, que...
C'est pas l'entropie, le phénomène de l'inattendu, de ça fait pas
l'entropie. Alors,
c'est un désordre.
Voilà, c'est le désordre, oui.
C'est ça. Bon, alors, au sein de cette question de désorganisé, il y a nécessité de ce désordre pour que ça ouvre. Voilà.
Ouais. Désordre, et certains parlent même de chaos, carrément. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un désordre fécond. Voilà. Un désordre créateur qui paraît totalement paradoxal.
Il y a quand même un cas, comme dans l'anglais, on parle de tradition, peut-être sont-elles nécessaires pour un certain cadre équilibrant, mais le taux qu'elles ne s'enquistent pas, c'est toujours pareil. Ça dépend de la part de désordre que nous osons mettre.
Ah, vous voulez dire dans la vie humaine?
Oui.
C'est vrai qu'au niveau des phénomènes naturels, on le voit bien, ce que vous voulez dire là. C'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique au niveau de la vie humaine, mais au niveau naturel, comme vous l'avez bien souligné, c'est l'entropie, c'est-à-dire la tendance de tout système mécanique, de tout système physique, à aller d'un certain ordre vers le désordre. C'est-à-dire vers un processus qui n'est pas contrôlé vers une forme déterminée, par exemple. L'entropie, c'est le désordre. Lorsqu'un système va du désordre vers l'ordre, on parle de négantropie. Mais c'est parce qu'il y a ce chaos-là qui intervient que des choses nouvelles peuvent apparaître. Les erreurs de frappe au niveau de la duplication de l'ADN, c'est de l'entropie. C'est un désordre. C'est ce désordre qui produit une variabilité. C'est à partir de cette variabilité des formes vivantes que va s'exercer la sélection naturelle. C'est-à-dire les espèces qui vont finir, celles qui vont disparaître. Et c'est pour ça que les biologistes disent que la nature, c'est un peu comme un champ de massacre. C'est un champ de massacre. Il y a il y a une variété incroyable, mais de cette variété, il y aura peu d'élus. Peu d'élus. Oui.
Vous avez remarqué, il y a quand même des changements importants lors de l'informatique.
Oui.
L'atome, c'est quand même ça, bouleversement de l'informatique, sans être diversifié complètement la société.
Mais vous voulez dire que ça a réformé votre vision du monde?
La vision du monde, je ne sais pas, mais c'est quand même une rupture.
Alors, bien sûr. Oui, je vous en prie.
Même dans la démarche scientifique, consiste à, dès qu'une théorie apparaît, un scientifique, les scientifiques n'ont d'autres tâches que de la changer ou de la contredire.
Voilà, pour en éprouver aussi la validité aussi. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le critère de réfutabilité chez Popper. Oui, vous avez raison. Pas pour la contredire, mais pour voir si elle tient le coup. Et puis c'est aussi le processus du progrès. Moi, je voulais vous dire, mais je ne pourrais pas le développer. J'aurais adoré faire une intervention que d'une heure là-dessus, mais c'est compliqué. J'aurais voulu vous dire que la vision du monde est bouleversante au sens où ça nous réforme et tout, quoi. C'est la physique quantique. Si vous saviez à quel point ça change, mais c'est invraisemblable. En physique quantique, les notions d'espace, de temps, de principe de causalité ne sont plus respectées. C'est-à-dire tout ce qui fait notre lecture du monde, en physique quantique, deux objets peuvent, enfin, deux particules, peuvent occuper le même espace. Si on change l'état d'une particule au présent, on modifie l'état de la particule en passé. Mais vous vous rendez compte, il y a des particules intriquées, il y a des choses mais incroyables. Le principe de causalité n'est pas respecté en physique quantique. Et c'est Richard Feynman, un des plus grands physiciens contemporains, qui se plaisait à dire « Personne n'a jamais compris la signification de la physique quantique. » Et si vous pensez l'avoir compris, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que la physique quantique, donc c'est la physique qui décrit le comportement des particules plus petites que l'atome, les particules élémentaires. donc les quarks, les muons, les gluons, cette physique-là est stupéfiante, absolument stupéfiante, parce qu'elle tente à nous montrer, étant donné que les atomes sont composés de ces particules-là, donc il y a quand même une continuité, elle tente à montrer que l'espace et le temps en particulier n'existent pas. Ce sont des pures constructions imaginaires. Je ne peux pas en dire plus là. Et ça, alors ça, au niveau de la réforme de la vision des choses.
C'est vrai.
Et cette réforme, c'est depuis quand ?
Ça vous fait des habitudes, là.
Ah oui. Oui, oui, parce qu'en plus, avec la finement grande, donc la théorie de la relativité, l'univers est courbe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je dis de manière très vulgarisée, hein. L'univers, on pourrait le comparer à une toile, hein, une toile d'un trampoline ou un drap, et les objets qui sont posés sur l'espace-temps courbent l'espace-temps. Alors, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Il se trouve que, en 1917, un certain Albert Einstein a montré que dans notre système solaire, une des planètes du système solaire, Mercure, c'était elle qui subissait le plus la courbure de l'espace-temps produite par le Soleil. Il a calculé ce qu'on appelle le périhélie de Mercure. Et il a trouvé que sa prédiction de la position de Mercure, 15 secondes d'arc, était plus précise que les prédictions de Newton avec les lois de la gravitation. La prédiction d'Einstein sur la position exacte où devait se trouver Mercure à un temps T, prouver qu'il avait raison. L'univers, l'espace-temps, est courbé par les astres. Et vous vous rendez compte? Au niveau de la réforme... Ah mais complètement, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Hein. Absolument.
Depuis la physique quantique
ou la relativité,
on peut voir même avec la biologie des enfants qu'on est dans
une rupture
entre le monde scientifique et la vie
du citoyen. Oui, absolument. Ah, mais oui. Il y a le célèbre mathématicien contemporain qui est vivant, hein, qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Alain Cohn, CO2NES. Récemment, dans une vidéo qu'on trouve sur Internet, Alain Cohn, il s'appelle, c'est le plus grand mathématicien français du moment, disait que. Il s'aperçoit effaré que la plupart des gens aujourd'hui, l'homme du commun sans que cette expression soit péjorative, fonctionne, pense le réel avec des concepts de physique du 19e. Alors qu'on est au 21e. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a un écart entre ce que la science nous dit et la manière dont les gens pensent le monde. Mais c'est gigantesque, gigantesque. Et là on est dans une réforme même épistémologique. Hein. Est-ce qu'on fera encore de la science comme on en fait aujourd'hui dans un siècle? Bon, personne ne peut le dire. Hein. Et déjà, la physique quantique nous apprend à faire de la science d'une manière très différente. Moi, j'ai eu le privilège d'échanger des correspondances avec des physiciens quantiques très importants hein, qui me disent notre métier en tant que physicien quantique, c'est de travailler du matin au soir sur des équations. On ne fait pas d'expérimentation. Fait un travail d'écriture mathématique. C'est-à-dire qu'on va plus vers la mathématique que vers la physique. Ça, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Je ne dirai pas plus.
Christian
Solvard, ben voilà.
Justement, pour le scientifique, est-ce que finalement le rôle de l'intuition ne se trouve pas réhabilité dans la manière dont il mène ses recherches? C'est finalement, si la nature ou l'univers ne sont plus le lieu de la répétition, et qu'au contraire, le réel est infiniment complexe, ben pour penser ce mouvant, finalement, est-ce que le scientifique ne peut plus être celui qui se contente d'observer des régularités, qui observe des lois de répétition, des mécanismes de répétition? Et justement, là, est-ce que ça ne réhabilite pas l'intuition dans la manière dont le scientifique mène ses recherches?
Alors oui.
C'est un peu contre-intuitif comme idée, on se dit l'intuition, dans la pensée commune, on se dit l'intuition... Et contraire au discours scientifique, aux raisons scientifiques, mais justement, là, est-ce que l'intuition n'a pas toute sa place finalement? Plus le réel est complexe, pour penser ce mouvant, est-ce que l'intuition.
Eh oui, ça c'est une très bonne question. vous avez, oui, enfin, moi je vous dis ce que j'entends, ce thème qui est très important. D'une part, la physique devient de plus en plus contre-intuitive. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se représenter. Il veut vous représenter un espace courbé à 13 dimensions, on ne peut pas se représenter. Contre-intuitif ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire d'image. Donc on a l'impression que la science, plus que l'intuition, s'éloigne de l'intuition. Et en même temps, il y a un retour du thème de l'intuition. Puisqu'il s'agit plus simplement de constater des régularités et de les écrire sous forme de loi mathématique. Il s'agit d'intuitionner. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? C'est là où après on se perd un peu au niveau des auteurs, qui n'ont pas tous la même manière de comprendre ce qu'ils entendent par intuition, mais il est clair que le mot intuition ici redonne toute sa place à l'imaginaire, à l'imagination, non pas pour en faire conceptualiser des choses qui n'existent pas, hein, mais en fait on s'aperçoit que la nature n'est pas rationnelle au sens où on l'entendait, même le fameux principe de, il s'appelle du rasoir d'Occam. La nature prend toujours les moyens les plus économes pour produire. Même ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un préjugé de la philosophie médiévale qu'on s'est trimballé jusqu'à la fin du XXe siècle. Le rasoir d'Occam. Donc, effectivement, l'intuition, elle a un rôle très important. Mais c'est un mot, moi je l'ai constaté hein, dans mes contacts, hein, c'est un mot qui est quand même à mauvais esprit. Parce que l'intuition, ça renvoie au médium. En fait, les grands savants sont des intuitifs, mais ils ne le disent pas. C'est un mot qui est mon esprit.
Oui, parce qu'Einstein lui-même disait que plaidait pour cette réhabilitation de l'intuition, et lui considérait justement que l'intuition était très importante dans ses recherches.
Exactement.
Il y a presque une dimension un peu de, enfin, entre guillemets, d'inventeur artiste. Enfin, vous voyez, il y a une dimension un peu esthétique.
Ouais,
enfin,
et c'est ça. Il y a un double discours. Parce que l'intuition, pour certaines personnes à Toulouse que je connais, l'intuition, là, c'est les voyants, c'est les...
On a l'impression que c'est irrationnel, forcément, ouais. alors que
non, je crois.
C'est la dimension créatrice de la raison.
Les mathématiciens, quand ils arrivent au bout de leur raisonnement, ils arrivent à une équation, une formule, ils la trouvent belle, artistiquement parlant. Elle a, voilà.
Oui, c'est vrai.
Naturellement.
C'est pour ça que
c'est curieux. Hein.
Et tient pas trop, finalement.
Non, c'est ça. Elle tient même pas du tout, en fait. Seulement, voilà, ça fait partie
des artistes.
C'est Green là, qui disait que la théorie des corps, qui est pourtant contestée, hein, nous décrit un univers élégant. Il parle d'élégance des équations qui nous démontrerait qu'à partir de la vibration de cordes élémentaires, les particules émergeraient. Quoi. Bon, vous voyez comment ce sujet permet de découvrir extrêmement. Les rapports de jury, parce que c'est une question donc, avec des concours, hein, pour HEC, on avait déploré l'absence de culture des candidats. Et franchement, c'est un sujet d'agrégation, ça. HEC, c'est des élèves de première année. Mm-hmm. C'est un sujet d'agrégation de philosophie. Donc moi, je trouve qu'ils sont durs, quoi. Hein,
ah oui, ouais.
Parce que c'est un sujet hyper. Bon, en même temps, c'est l'épreuve, une des épreuves très sélectives. Hein. L'épreuve philo, culture générale, dans ces concours. Et c'est un magnifique sujet aussi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous peut-être dans la prochaine fois, je crois que c'est...
En mai.
Donc je terminerai le mois de mai par là. Les grandes théories philosophiques.
L'année prochaine, vous faites encore une conférence pour...
Alors, les questions philosophiques, moi j'arrête, il y a un de mes collègues qui va prendre le relais.
Il n'y en a pas au mois de mai?
Si, le 17 mai.
Il y en a une le 16 mai.
Ici, le 16 mai.
Ici, le 16 mai, les grandes théories philosophiques sur l'art. Ouais.
Ici, voilà, et au Café Le Riche, ce sera le corps, notre corps est-il le responsable de tous nos maux?
Oula, c'est quand?
C'est le 17 mai, voilà. Et je vais vous dire que pour l'an prochain, donc, je suis très content parce que mon collègue, ils ont programmé des questions très intéressantes. Et moi, j'ai essayé de programmer aussi des questions, alors, ou bien des questions comme aujourd'hui, enfin, ou alors des résumés de doctrine, c'est pas intéressant. Donc j'ai programmé la philosophie de Nietzsche, pour vous donner un panorama de sa philosophie, les philosophies du bonheur, je terminerai par une intervention sur le thème liberté chérie. Vous verrez l'an prochain, je pense que vous ne serez pas déçus.